cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 9 novembre 1994.
Je vous ai rappelé la dernière fois comment les traditions religieuses, ici, je prends la tradition judéo-chrétienne, la plus forte. Objectivement, tout le monde est obligé de reconnaître que c'est la tradition la plus pure et qui va le plus loin. Pour quelqu'un qui, au point de vue de son intelligence, n'a pas découvert la nécessité de poser un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Que les traditions religieuses qui affirment l'existence d'un créateur suffisent pour poser un acte prudentiel au point de vue humain, qu'il est nécessaire d'adorer ce Créateur. Et ce serait souverainement imprudent. Mais on est dans l'ordre pratique, il ne faut pas l'oublier au point de vue de la prudence. Et au point de vue de la prudence, l'opinion suffit pour agir. Oui, c'est important de se rappeler ça, parce qu'autrement on aurait la tentation de dire « Ah, il faut à tout prix découvrir l'existence de l'être d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. » Avant d'adorer, pas du tout. La prudence montre que les traditions religieuses suffisent. Et voyez, cette affirmation que saint Thomas lui-même fait, l'intelligence découvre l'existence, découvre la nécessité de poser un être premier. Et on conclut, cet être premier, c'est ce que les traditions appellent Dieu. Je passe donc d'une évidence philosophique. Il est nécessaire de poser un être premier pour expliquer notre propre existence. Notre propre existence appelle l'existence d'un être premier. Le monde dans lequel nous sommes appelle l'existence d'un être premier. Ceci, on peut arriver là à une certitude philosophique et on passe à une opinion pratique, ce que les traditions appellent, ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Vous voyez, on lit les deux. Et ça, c'est très significatif pour nous faire comprendre que le mystère de Dieu change toute notre vie pratique. Et que ce mystère, nous pouvons l'atteindre par les traditions religieuses. Elles existent. Considérer les traditions religieuses comme rien. Le positivisme. Et le positivisme n'est pas intelligent. Vous voyez? Parce que c'est pas intelligent de faire ça. Je crois qu'il faut, là saisir que l'humain est au-dessus du scientifique. Et ramener l'humain au scientifique, comme le positivisme le fait, ce n'est pas intelligent. C'est rationnel. Et un rationnel scientifique. Mais le rationnel scientifique, si on l'oppose à ce qu'est l'intelligence que j'ai de ma vie humaine, si je l'oppose, ce n'est pas intelligent. C'est mettre la raison, la science avant le point de vue de l'intelligence à l'égard de la personne humaine. La personne humaine existe indépendamment de la science. On a tous vu ça. On a tous vu, grâce à Dieu, des hommes intelligents, presque des sages, qui, au point de vue scientifique, mathématiques, vertu de l'adoration fait le lien entre les deux. C'est ça qui est très étonnant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Je vais d'abord regarder l'adoration à partir des traditions religieuses. Et je vais préciser ensuite ce que la connaissance philosophique de philosophie première, donc de métaphysique, peut apporter en plus. Et c'est le lieu où on peut préciser ça. C'est ça qu'il faut bien saisir. Parce que c'est intéressant. C'est pas à l'égard de l'amitié. C'est pas à l'égard de l'amitié humaine. L'amitié humaine, j'aime un ami. J'aime quelqu'un qui m'aime. C'est l'homme qu'on regarde. Tandis que là, dans l'adoration, je me mets en présence de mon Créateur. Les traditions religieuses affirment qu'il y a un Créateur et que je suis créé par lui dans mon âme humaine. Oui. Les traditions religieuses affirment deux choses. L'existence de Dieu, l'existence de l'âme spirituelle. Il n'y aurait pas de tradition religieuse s'il n'y avait pas une âme spirituelle. Et la distinction entre l'âme et le corps, je vous l'ai déjà dit, ne relève pas du tout des traditions religieuses grecques, mais relève des traditions religieuses de l'Inde. Et c'est très important de se rappeler ça. Et quand quelqu'un refuse la distinction de l'âme et du corps, parce que c'est grec, il faut lui dire, oh, vous vous trompez complètement. Vous n'avez pas le droit d'affirmer ça. C'est l'Inde. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui. Ce retour vers l'Inde est très intéressant. Parce que ce retour vers l'Inde peut être quelque chose qui rééquilibre le monde. Je connaissais quelqu'un qui était très lié à l'ONU et qui suivait tout, et qui disait, c'est tellement curieux de voir la distinction, les questions que pose l'Inde et les questions que posent les États-Unis. D'un côté, c'est le comment, et de l'autre côté, c'est le pourquoi. Il disait ça comme ça, sans du tout être un philosophe. Ça m'intéressait beaucoup. Les États-Unis, c'est toujours le comment. Et l'Inde, c'est le pourquoi. Il y a un apport, il y a comme une réserve religieuse de tradition très forte qui demeure encore et qui rappelle à l'homme que le poids des traditions religieuses est quand même quelque chose de très grand et qu'aujourd'hui on assiste avec la laïcité, le positivisme qui fonde la laïcité soi-disant scientifiquement. Mais en réalité, c'est faux. Puisque la science n'a rien à voir avec l'attitude religieuse. Mais le positivisme implique une vision philosophique d'un super science ou d'une science qui veut régler tout. C'est ça le positivisme. Alors, le positivisme nie l'attitude religieuse. La science ne nie pas l'attitude religieuse. C'est le positivisme. Et la laïcité repose sur le positivisme. Et quand on dit que ça repose sur la science, c'est faux. Il faut avoir le courage de le dire. Vous voyez ? C'est pour ça que la bioéthique, qui veut se reposer sur la science, en réalité repose sur le positivisme. Parce que la science respecte l'éthique. Des grands scientifiques reconnaissent que leur science est autre chose que leur vie morale. C'est deux choses différentes. Alors, les traditions religieuses me mettent en présence du mystère de la création et me disent que mon âme spirituelle est créée par Dieu, immédiatement. Parce que mon âme spirituelle, qui en moi aimer la dépendance à l'égard du Créateur est le fondement de mon acte d'adoration. Si je considère Dieu comme un tyran, ce n'est plus un Créateur. Et je ne peux pas adorer un tyran. Je ne peux adorer que celui qui est le Père de mon âme spirituelle et que je considère que il est le Créateur de mon âme et que cet acte de création est un acte d'amour et un acte de sagesse. C'est par sagesse, c'est dans sa sagesse que Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé dans son amour, par pur amour. Je n'ajoute rien à Dieu. Dieu a créé par surabondance d'amour, dans la gratuité absolue de l'amour. Le seul acte parfaitement gratuit, c'est l'acte créateur de Dieu. Et la recherche comme ces actes sont en même temps des actes humains, cette gratuité n'est jamais absolue. Ma main droite, ma main gauche peut ignorer ce que ma droite, main droite fait, ou l'inverse, n'est-ce pas? C'est très juste, mais on sait très bien qu'elle ne l'ignore jamais totalement. Parce que c'est les deux mains d'un même homme. Alors vous voyez, ça c'est le regard philosophique. Point de vue profond, le christianisme, si je suis lié à Jésus, je peux poser des actes gratuits. Et je désire que ces actes soient de pure gratuité. Quand on fait profession perpétuelle ou profession tout court, on veut poser un acte gratuit, de pur amour. Vous voulez. Tandis que si vous faites profession en disant « Ah oui, c'est encore là où ma vieillesse est la plus assurée. » La profession ne serait pas valide. C'est comme celui qui se marierait en disant « C'est encore avec elle que ma vieillesse est la plus assurée. Alors je me marie avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. » de mourir avant. Il n'y aurait pas mariage au sens propre. C'est très important de comprendre que certains actes dans notre vie impliquent quelque chose qui rejoint l'acte fondamental de ma vie. C'est-à-dire l'acte fondamental du Dieu créateur. Je suis né dans la gratuité. Et donc j'ai une nostalgie de la gratuité. Je comprends ça très bien. J'ai une nostalgie de la gratuité. Et les artistes ont ça très fort. Parce qu'il y a une connaturalité très profonde entre l'artiste et l'acte créateur de Dieu. Et les amoureux comprennent ça très bien. Parce qu'il y a une connaturalité entre l'amour et l'acte créateur de Dieu. L'amour fondamentalement, lorsqu'il s'agit de la création, est un acte de gratuité absolue. Répondre à cette gratuité, c'est quand même le souci fondamental de l'homme qui reconnaît que les traditions religieuses ont une valeur humaine. L'humanité a vécu de ça pendant des siècles et des siècles. Alors je ne crois pas Je crois qu'il faut bien saisir ce moment très important d'un choix. L'acte religieux, l'acte d'adoration commence par un choix. Je choisis la relation de moi-même et du Créateur. Et je sais que cette relation ne peut exister en toute vérité que si je reconnais que je suis totalement dépendant de lui et que je me remets dans cette totale dépendance. Et c'est ce choix qui nous rien ajouter à Dieu. La seule chose que je peux faire, c'est de reconnaître qu'il est mon Créateur. Et en reconnaissant qu'il est mon Créateur, je l'honore radicalement. En reconnaissant que je ne suis rien à côté de lui. Et que n'étant rien à côté de lui, je me remets totalement entre ses mains, c'est-à-dire dans son bon plaisir. C'est très grand l'acte d'adoration. Ça permet à la personne humaine d'être adulte. Oui, les psychologues ne disent pas ça. Hein. Pour les psychologues, être adulte, c'est être capable de porter des responsabilités. Mais si on oublie Dieu, est-ce qu'on est adulte? Humaine, on s'aperçoit que l'amitié humaine en elle-même reste limitée. Et alors, quand on découvre que l'amitié humaine à laquelle on a basé toute sa vie est limitée, il y a l'angoisse. Et l'angoisse généralisée de notre monde aujourd'hui, c'est l'angoisse d'un monde errant qui oublie Dieu. Ça, il faut le reconnaître au plan philosophique. Cette angoisse mondiale, internationale, cette angoisse anonyme. Parce que ce qui est très curieux, c'est que l'angoisse est anonyme. Elle ne l'est pas en réalité. Mais on la colore d'anonyme. Elle ne l'est pas parce que l'angoisse relève toujours d'un refoulement. Tout le temps. Parce que le refoulement fait que on a oublié une expérience. On ne veut pas la regarder. Alors on refoule ça, on le rejette, et l'angoisse pénètre. C'est très curieux, le phénomène de l'angoisse. Alors c'est très important, puisque de fait ça se généralise aujourd'hui. Quand vous dites à un psychanalyste que vous ne savez pas ce que c'est que l'angoisse, vous n'êtes pas angoissé, il vous regarde, alors vous êtes déséquilibré. Parce que vous n'êtes pas adulte. Il dit, mais c'est l'inverse. L'angoisse minime, je suis inhibé par l'angoisse, je suis incapable par l'angoisse de poser un acte humain. Je suis entraîné par le le torrent. Je peux plus. Incapable. C'est ça le propre de l'angoisse. C'est pour ça que l'angoisse est inhumaine. Et je dois tout faire pour lutter contre l'angoisse. Parce que je perds du temps dans l'angoisse. Alors comment lutter contre l'angoisse? Quel est le refoulement le plus fondamental? Le refoulement le plus fondamental, je le sais, en tant que chrétien. dépendant de lui, et que reconnaître cette dépendance, loin de m'aliéner, loin de me refermer sur moi-même, puisque l'aliénation suprême, c'est de se refermer sur soi-même. Ça, c'est la pire des aliénations. Parce que le pire des tyrans, c'est moi-même. Pour moi-même, c'est le pire des tyrans. Parce que quand le tyran est en dehors, il est en dehors. Tandis que quand le tyran est dans la place, il est dans la place. Alors il faut reconnaître que dépendre d'un être qui est Dieu, loin de me tyranniser, loin de me bloquer sur moi-même, c'est indépendamment de Dieu. C'est la grande objection que dit saint Thomas à l'égard de l'existence de Dieu. Il donne deux objections. L'objection de la souffrance, l'objection que tout s'explique indépendamment de Dieu. J'ai pas besoin de poser Dieu, tout s'explique. Alors, on dira non, tout ne s'explique pas. Tout ne s'explique pas. Parce que dès que vous voyez certains phénomènes qui dépassent complètement toutes les prévisibles scientifiques, vous êtes bien obligé de dire autre chose. La science n'explique pas tout. Elle explique certaines choses. Elle n'explique pas tout. Et c'est là qu'on comprend ce que l'Apocalypse appelle les plaies de Dieu. Parce que les plaies sont en dehors de l'ordre scientifique. C'est Dieu qui intervient directement d'une façon violente parce que l'homme ne comprend plus que ça. Si tu agissais de façon douce, on dirait, mais oui, tout s'explique. Tandis que la violence n'est pas scientifique. La violence relève de l'amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il est violent. C'est le Père qui châtie, c'est le Père qui est violent. Alors ça, c'est la violence, c'est la colère de celui qui aime et qui est devant quelqu'un qui s'entête dans son point de vue d'immanence et qui veut tout expliquer par lui-même. Eh bien non, on n'explique pas par soi-même l'amour. L'amour provient d'autre, provient du bien qui est en dehors de moi. Mais c'est très très important de saisir au point de vue éthique la place de l'adoration aujourd'hui. Et que si vous supprimez l'adoration, nécessairement, vous êtes un errant. Parce que vous ne voyez plus sur quoi l'homme peut s'appuyer naturellement. Il est fait pour Dieu. Parce qu'il vient de Dieu, il est fait pour Dieu. Et parce qu'il est fait pour Dieu, il doit comprendre quelle est la voie qui conduit vers Dieu. La voie fondamentale, c'est l'adoration. Un homme qui n'adore plus, il peut continuer de croire, mais pas très longtemps. Parce que sa foi ne sera plus enracinée. Elle sera quelque chose qui voudrait se développer indépendamment de l'homme. Je crois que la première incarnation de la foi, des lois parfaites que la tradition judéo-chrétienne. Et toutes les traditions religieuses antérieures à la tradition judéo-chrétienne sont beaucoup moins parfaites. Elles sont beaucoup moins nettes par rapport au Dieu créateur, par rapport au Dieu père, et donc par rapport à l'homme. La tradition suffit pour moi au point de vue prudence à poser l'acte qui répond au temps qu'on peut répondre à l'acte créateur de Dieu. Je réponds à cet acte créateur et je réponds à ma manière de petite créature qui veut coopérer, puisque Dieu crée un être spirituel capable de comprendre qu'il est créé par Dieu et donc capable de pouvoir coopérer. C'est la coopération fondamentale et radicale et première. Je ne peux pas coopérer avec Dieu si je ne l'adore pas, parce que par l'adoration je reconnais ce qu'est Dieu, la personne. On coopère avec une personne. Or, c'est par l'adoration que je reconnais ce qu'est Dieu. Il est le Créateur. Pour moi, c'est la distinction première et fondamentale que je dois faire. Je découvre Dieu comme Créateur. Alors, que va apporter notre philosophie? Notre philosophie qui veut aller jusqu'à la métaphysique, jusqu'à la philosophie première. Que va apporter la philosophie? Elle va apporter une critique aux traditions religieuses. Ça, c'est la force de la philosophie et de la métaphysique. La métaphysique peut critiquer les traditions religieuses pour essayer de comprendre dans les traditions religieuses ce qu'il y a d'exact et toute la boue qui vient du torrent et qui vient des hommes. Parce que les traditions religieuses donnent des quantités d'éléments qui ne sont pas justes. Je vous ai déjà cité, hein, dans vos temps, vous avez quelquefois un peu de temps libre, ayez le dossier création et voyez toutes les traditions religieuses se nouant autour de la création. Et voyez le mythe positiviste scientifique de Binbang pour remplacer la tradition religieuse création. Et voyez combien c'est faiblard comparativement aux traditions judéo-chrétiennes. Donc, le premier rôle de la métaphysique, c'est de critiquer les traditions religieuses et de montrer que les traditions religieuses charrient des quantités de choses qui sont symboliques, qui sont illogiques. De la foi à la tradition. la mesure où l'éthique religieuse